Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Blard au micro. Oui, Mathieu Tessier est revenu avec moi. Aujourd'hui, c'est mardi. Malheureusement, il est avec moi jusqu'à... presque à la fin de la semaine.
Comment malheureusement?
Ah oui, Mathieu, tu m'avais dit la dernière fois, tu ne savais pas si tu revenais.
Eh oui, je suis de retour.
Comment vas-tu?
Pas très mal, merci. Lui-même.
D'être poigné avec moi, comme si je me permets d'être poigné avec moi jusqu'à...
Ça va, je t'écoute d'une seule oreille.
Merci, Mathieu. Mathieu, t'es ici à la régie. Jusqu'à jeudi, ouais, mardi, mercredi, jeudi, voilà. Ok, bon, mais il y a Myriam qui est déjà au bout du fil en première partie d'émission. Elle va nous parler de quoi elle va nous parler des, voilà, le lot du diable au Québec, Survivor, Québec, Canada, Drag Race. C'est la chronique des séries, des nouvelles séries. Et puis en deuxième partie d'émission, à 16h30, je vais recevoir Daniel Lanteigne, qui est le président de l'association des professionnels en philanthropie. Il y a AFP, ça veut dire Association of Fundraising Professionals. Journée nationale de la philanthropie, c'est aujourd'hui 15 novembre. Qui est mieux placé que Daniel Lanteigne, qui est le président de cette association? Voilà, donc c'est lui à 16h30 si vous voulez en savoir plus. Pour ceux qui ne connaissent pas l'existence de cette association, vous allez découvrir. Et ça, qu'est-ce que ça fait là-bas? Voilà, sa mission, sa vision et autres. Bonjour Myriam Larache.
Bon après-midi, Fulgence, et à tous nos auditeurs.
Oui.
J'espère que tout le monde va bien.
J'espère. Je vais bien. Bon, et de ton côté?
Oui, ça va bien.
Comme alors.
Je dis à Mathieu hors onde, je me prépare à cette première bordée. Mentalement, bien sûr.
Ouh, ne me mets pas là-dedans.
Alors, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt mentalement.
Non, je ne suis pas encore là-dedans. Là. Bon. Même si je porte ma tuque depuis hier. Hein.
Ah oui, c'est vrai, depuis même 2 jours, ouais, ouais.
Oh ouais.
Alors, on va parler des séries télé-réalité, Fulgence.
Oui.
Alors, les télé-réalités ne sont pas toutes des OD, hein, occupation double, comme la grotesque saga vécue il y a une dizaine de jours, faisant la une de tous les médias quasiment, même les journalistes de la presse s'y sont mêlés. Alors, au fait, il y en a qui sont instructives, divertissantes, et pour tous les goûts et tous les genres. De la musique en passant par le monde agricole, la cuisine, les survivors ou les survivalistes de ce monde entre autres. Ces derniers d'ailleurs attirent beaucoup de spectateurs depuis toujours, bien avant la recherche de sa douce moitié par l'entremise d'une télé-réalité.
Oui.
Alors voilà Fulgence, est-ce que toi tu en suis une télé-réalité?
Non.
Non.
Est-ce non.
Que tu voudrais participer à une télé-réalité?
Non plus.
Non plus. Même pour apprendre à cuisiner ou pour
non.
apprendre,
non.
pour trouver ta douce moitié
non.
ou pour... Hein, en tout cas.
Non,
alors,
mais...
y en a, comme j'ai dit, pour tout le monde.
Ça ne fait pas, il y a des goûts pour tout le monde, mais pas vraiment tout le monde, quoi.
Alors, au Québec, figure-toi,
oui.
que c'est le retour, la saison 2, du lot du diable.
Oui.
Alors, chez nous, au Québec, une série réalité qui a eu un grand succès il y a 5 ans et de retour dans notre petit écran depuis jeudi, depuis vendredi dernier pour sa 2e saison,
oui.
au grand bonheur de ses fans. Et je vous parle donc ici du lot du diable. En 2017, le lot du diable avait connu un succès impressionnant et battu des records d'audience sur les ondes de Historia.
Oui.
5 ans plus tard, la chaîne Série Plus et Historia en commun reviennent avec la suite intitulée cette fois « Le lot du diable, la conquête de la mer ». Alors, le concept, qu'est-ce que c'est? Cette nouvelle production de 10 épisodes explore la réalité des colons s'étant établis en Gaspésie après la Grande Dépression pour faire fortune grâce à la pêche. Alors, on a Louis Champagne qui est de retour en tant qu'inspecteur de la colonie et aussi juge du jeu. Alors, les 16 candidats sélectionnés ont la chance de vivre une expérience immersive, unique, et seront donc plongés dans la réalité quotidienne des colons de l'époque. 1940, Fulgence, une compétition qui allie au fait jeux d'endurance et reconstitution historique du Québec de ces années-là. C'est impressionnant parce qu'ils les mettent vraiment dans ces conditions.
1940, oui.
1940, Fulgence, imagine au Québec, en Gaspésie. Alors, les participants, qui proviennent de tous les milieux, doivent d'abord construire eux-mêmes le bâtiment où ils dormiront, imagine. Et déjà, ceux qui ont moins d'aptitudes manuelles, parce qu'il y a des femmes, des hommes dans tout ça, se voient défavorisés dans la compétition,
alors,
surtout qu'à cette
ça.
Époque-là, il en fallait beaucoup.
Ah oui, parce que tu comprends bien pourquoi est-ce que je te dis que non, j'ai pas envie d'y participer, parce que moi, je serais complètement perdu là-bas. Quoi, là. Là,
c'est mais pas... en cuisine, je pense que c'est pas dangereux en cuisine.
Ouais,
c'est aussi en cuisine. Hein. Alors, les participants qui proviennent d'ailleurs de tous les milieux différents doivent donc se construire ce que j'ai dit,
oui.
mais aussi faire face à des épreuves avec peu de moyens et dans des conditions misérables, parce que c'était juste après la Grande Dépression, hein, donc la situation n'était pas florissante. Et ils essayent donc de faire de l'argent par la pêche. Parce que par à ce moment-là, donc, c'était pêcher à la morue sur des barques. Et ils vont monter, aller pêcher avec les conditions climatiques de la Gaspésie de l'époque. C'est incroyable. Alors, puis, c'est fascinant comme télésérie, hein, en passant.
Et puis, c'était le début de la Deuxième Guerre mondiale.
C'est exact. Et comme je dis, ils vivent dans ces conditions. On en apprend beaucoup sur l'époque en Gaspésie, au Québec. C'est ça qui est fascinant et qui est bien. C'est en même temps instructif. On voit comment les gens vivaient, quelle était la difficulté. Alors, c'est pour ça que ça fascine beaucoup, d'ailleurs, les gens. Alors, afin de survivre aux immigrants, ils doivent prouver qu'ils ont donc l'étoffe d'un colon en accomplissant beaucoup. Par ailleurs, chaque semaine, les candidats sont invités à la place centrale pour voter l'éviction d'un des leurs. Parce que c'est ça, toute compétition aux téléréalités.
Oui.
Ben, on s'élimine entre nous jusqu'à ce qu'il y en arrive un qui arrive au bout et qui met la main, d'ailleurs, sur combien? Le grand prix de 100 000 $. Alors, c'est ça la carotte au bout. On se dit, bon, on peut souffrir si je vais gagner 100 000 $, ça leur permet de résister. Alors, à noter, comme dans toute bonne télé-réalité, le lot du diable, la conquête de la mer, présente de la bonne vieille bisbille et de la tension entre candidats. Comme les participants mangent peu, dorment à peine et bûchent très fort, les esprits s'échauffent, bien sûr, et les conflits ne tardent pas à voir le jour entre eux. Donc, ça aussi, c'est à regarder.
Oui.
Alors, le lot du diable, la conquête de la mer est diffusée depuis vendredi dernier à 20h à Série Plus et Historia en simultané. Et il est en rediffusion plusieurs fois par semaine. Et vous pouvez même, à ce qui paraît maintenant, elle l'a mis Historia sur son compte YouTube, voir la première saison qui était, à ce qui paraît, fabuleuse. Il faut aller la voir, c'était dans le milieu sauvage, en pleine forêt. Alors, pour ceux qui aiment ces aventures, une autre chose, toujours dans ce même thème de survie, nous avons, tu avais entendu parler de Survivor quand même.
Oui.
Alors, la célèbre série de télé-réalité Survivor, produite dans plusieurs pays du monde depuis plus de 25 ans, hein, quand même, vient enfin
C'est un vieux truc, il faut le dire.
C'est un vieux qui joue encore, qui joue encore cette année, en ce moment même, d'ailleurs sur la chaîne CBS américaine, c'est en ce moment la 41e saison. Alors, nous aurons aussi notre Survivor, Fulgence. Pour information, le concept a été créé au passage, je ne le savais pas, ça c'est en faisant des recherches que j'ai trouvé ça,
oui.
En 1992 par Charlie Parsons et diffusé pour la première fois en Suède, en 1992 sous le nom d'abord d'Expédition Robinson. Moi je pensais que c'était américain, tu vois, comme quoi je me trompais. Le but est d'être le dernier candidat à survivre dans le jeu après avoir surmonté des épreuves où les participants doivent montrer le plus d'endurance et de résistance.
Oui.
Un peu le même principe que l'autre. Mais cette fois, c'est pas dans l'époque, c'est pas dans l'histoire, c'est dans une, à ce qui paraît souvent choisi, une zone tropicale ou une zone de jungle, en Afrique. D'ailleurs, ils l'ont fait aussi en Afrique, hein.
Oui,
alors,
oui,
tout
oui.
ça, donc, dans ces conditions. En Amérique du Nord, nous sommes plus familiers et consommateurs de la version américaine, diffusée, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la chaîne CBS depuis 22 ans, avec 41 saisons. Et qui offre un lot, par contre, eux, le plus haut lot, c'est eux, les Américains, comme toujours, avec $1 million en bout de ligne. Alors,
wow.
Ce concept au Québec, oui, c'est incroyable. Moi, j'ai suivi un peu ça au début, hein, au début des années. J'ai suivi aussi celle de l'année dernière, ça m'avait remis un peu dans le temps, mais des fois, c'est intéressant. Alors, au Québec, nos candidats seront donc isolés sur une île exotique des Philippines, figure-toi. Ils sont d'ailleurs là-bas déjà. Pendant une quarantaine de jours, loin de tout confort, ils devront organiser leur terrain d'habitation, être à l'épreuve du climat, se dépasser physiquement et mentalement dans des épreuves extrêmes, s'entendre en groupe pour une gestion de la nourriture quand on en a. Mais surtout, il faudra user de stratégies pour survivre aux éliminations afin de devenir le dernier survivant et mettre la main sur 100 000 $. Alors, quel est le comédien animateur qui va animer ça? Patrice Bélanger, qui animera donc l'émission dont la première saison sera diffusée ce printemps-là.
Okay.
Ce dernier a d'ailleurs précisé en entrevue que c'était un rêve pour lui. C'est une chance exceptionnelle qui se présente à moi, dit-il. Survivor est un rendez-vous incontournable pour ma famille et moi-même. Ça me rappelle des choses parce que moi, je l'ai vécu un peu avec mon fils l'année dernière et mon conjoint. L'émission fait partie de nos vies depuis longtemps et nous rive systématiquement devant nos écrans depuis des années. Alors voilà, Survivor sera au printemps sur le Québec. J'ai hâte de voir la version québécoise. Ça va être drôle. Ça va être drôle.
Oui, bon, alors, de toutes les façons, ils vont ajouter le grain de sel à eux pour pouvoir donner,
oui.
pour donner la couleur québécoise, quoi.
Exact. Puis on va voir comment nos Québécois se débrouillent en groupe en pleine jungle des Philippines. Hein. Ça va être drôle à voir.
Les Philippines.
Alors
ouais,
c'est ça. Pas le Canada, puis c'est pas le froid. Hein. C'est la chaleur.
Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mmh.
Alors, pour finir sur une dernière série télé-réalité cette fois, qui s'appelle Canada Drag Race.
Oui, de quoi ça parle, Myriam?
Ah oui, alors ces derniers temps, notamment en Amérique du Nord et au Canada, des émissions sur les drag queens sont bien tendance. Tu as dû le remarquer, Fulgence, on en voit un peu partout.
Oui.
Ils sont invités partout, il y a beaucoup d'émissions, mais c'est aussi une illustration, au fait, d'une télévision beaucoup plus inclusive et ouverte. C'est ce qu'on se veut, n'est-ce pas? Alors, c'est la tendance du moment. Alors, Canada's Drag Race est l'une des 12 versions du concours télévisé américain RuPaul's Drag Race, devenu culte d'ailleurs et qui s'est mérité, on l'a vu lors des trophées, plusieurs nominations et trophées du petit écran. Le concept, c'est quoi? Canada's Drag Race réunit chaque saison 12 candidates qui tentent de séduire des juges avec leur talent en chant, en danse, en théâtre, en personnification, en confection de costumes toujours flamboyants et en improvisation. Alors, la nouvelle championne met également la main sur le grand prix de 100 000 $, dont c'est le prix au Canada. Ça frôle pas plus que ça chez nous. Alors, des personnalités sont souvent invitées dans le panel des jurys. Leur présence peut avoir un rapport avec le thème de défi de la semaine ou avec la chanson prévue pour le lip-sync de l'épisode. Et la toute prochaine série de Canada's Drag Race,
versus,
c'est un peu difficile à prononcer, versus The World, a développé donc les prémices de sa 4e saison, qui commence cette semaine. En passant, la série comptera la présence, devine donc bien, tu as dû le voir dans les nouvelles, de notre premier ministre Justin Trudeau. Il a fait même la une des médias français, figure-toi, et des téléjournaux. Cette visite marque la première fois qu'un leader mondial d'un État ou un chef d'État fait une apparition dans un volet de Drag Race. Et
oui, j'ai vu
queen.
Ça passer, ça m'a fait sourire.
Oui, soulignons que la 3e saison, alors il sera là apparemment parmi le jury, la saison commence donc le 18, et soulignons que la dernière saison, la troisième, a fini sur la victoire d'une première fois d'une Québécoise drag queen qui s'appelle Gisèle Loulabi, qui a remporté la compétition, donc la dernière saison. On a beaucoup de Québécoises qui participent à chaque saison, et voilà. Alors, la saison 4 sera diffusée en primeur sur Crave les vendredis à 21h, dès cette semaine, vendredi 18 novembre.
Dès cette semaine, là?
Oui, ça commence.
Dans 2 jours?
Dans 2 jours, exactement.
Oui, dans 2 jours. Okay.
Alors, voilà, c'est la télé-réalité au Québec et au Canada.
Voilà.
On a fait un petit tour pour ceux qui veulent aller voir. Et c'est, à mon avis, intéressant pour ce qui concerne le Québec, car c'est surtout celle épique, le lot du diable. Je vous conseille d'aller regarder ça, c'est fabuleux.
Voilà, et puis ça peut donner aussi l'idée à certaines personnes qui t'écoutent, qui nous écoutent, qui l'année prochaine aimeraient bien participer à des télé-réalités, de se préparer mentalement et physiquement. Parce que...
Physiquement, mais il y en a qui se préparent à l'avance, une année à l'avance pour être physiquement capable. Oh. Et ils font le recrutement, il faut faire attention, parce que tu vois, pour Survivor dans les Philippines, c'était tout le mois de septembre, ils faisaient appel aux gens pour venir s'inscrire.
Oui, pour le casting.
Pour être sélectionné.
C'est ça.
Voilà.
Merci beaucoup, Myriam.
Mais je vous en prie, et je vous dis à jeudi.
À jeudi, pour le sport.
pour les presque quelques jours qui nous restent avant le mondial. On va en parler en long et en largeur ce jeudi-là.
Mais ça commence vendredi. Tu sais que je me suis permis d'ailleurs de m'abonner à comment ça s'appelle, TSN, là, pour avoir le... J'ai pris TSN, j'ai pris TVA Sport et autres, là, pour pouvoir regarder ça de chez moi. Et éviter d'aller au bar de sport, là, qui... Ils ont mis l'écran, ça me trouble un peu, quoi.
il faut se préparer. Mais je te donnerai des petites cues pour aller voir ça, même sur ton cellulaire. Ça te fait boum, puis tu peux regarder le match en direct.
Oui. Non, je me suis pris. Maman, ça fait que moi-même, le dernier Grand Prix au Brésil, je l'ai regardé de mon salon, quoi, de mon canapé.
Bon.
Je ne suis pas allé au bar de sport, donc je me suis dit... Bon,
on va voir pour quelle équipe tu nous laisses en suspens jusqu'à jeudi, pour voir pour qui tu vas prendre.
Que le meilleur gagne.
Réfléchis, ah non, il va falloir que tu me donnes ton choix.
Ah voilà, non, bon, je ne peux... En premier, bon, si l'Allemagne, le Canada, je vais te balancer.
Il va falloir me donner ton choix de cœur, je vais te demander ton choix. Alors je te donne 2 jours, ton choix de cœur, ton choix de raison.
D'accord, à jeudi Myriam. Allez, bonne soirée à toi, au revoir. Long legs, cut off jeans, pulling me in like a magnet. Your eyes locked on me, I knew right then I gotta have you. Right here in the middle of the floor of this hole in the wall on the back street, I knew I had to get close.
gonna make me want to. Your face touching on me, lighting me up like a bonfire. Your lips are making me think this is gonna be an all night. Right here in the middle of the crowd, you're the center of the world on a bar stool. Oh yeah, I had to get close to you. Girl, what's your name, what you drinking? Yeah, what's your favorite song? If you're thinking what I'm thinking, we ain't gonna be in this bar too long. We'll be sneaking on out to your car, stealing kisses out there in the dark. Yeah, you might be too soon to say I love you, but you're gonna make me want you. Yeah. We'll be sneaking on out to your car, 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 stealing kisses out there in the dark, dark, dark.
Maoli, make me want to. Make me want to. Right. C'est pas make me want to, mais make me want to. Voilà, avant d'arriver à la fin de la première partie de l'émission, je vais parler un peu de tennis au Masters, les Masters de Turin en Italie. Turin en Italie, j'ai dit Turin. Non, c'est Turin 2022. Félix Auger-Aliassime vient de battre Rafael Nadal. Allez-y comprendre quelque chose. Voilà, ça c'est. Je m'attendais à ça, c'est ce que je disais la dernière fois, la semaine passée. Bon, depuis un bon moment avec Myriam, qui fait les chroniques de sport ici, Myriam Larache, qui vient de raccrocher. Et déjà, il va falloir qu'il sache prendre sa retraite comme l'a fait son ami et concurrent, ancien concurrent, Roger Federer. Faut pas attendre à ce que tu déclines avant de dire j'arrête. Je savais, moi personnellement, quand je voyais Nadal aller dans les dernières compétitions, je me suis dit. Le corps ne fait plus avec. Ça, c'est clair. Il n'a pas 12 ans, il n'a pas 18 ans, il n'a pas 22 ans comme Félix Auger-Aliassime. Il n'a pas 30 ans non plus, c'est au-delà. Et je pense bien qu'à un moment donné. Et puis, il est devenu papa en plus. Est-ce qu'il dort, est-ce qu'il passe de très bonnes nuits? Bon, je ne sais pas. Quand on est papa, les nuits sont coupées. Hein, voilà. Voilà, c'est comme ça parce que bon, ben, à un moment, et puis il faut s'entraîner, et puis le corps ne répond plus avec. À un moment donné, il faut se dire ça suffit, c'est fait battre par le jeune Félix Auger-Aliassime 6-3-6-4, qui s'est relancé dans le groupe vert après sa défaite initiale à Fala. Gaspard Ruud l'avait battu, mais lui, il s'est vengé. Mais c'est un peu triste hein, parce que je ne sais pas, c'est l'oncle de Nadal qui entraîne Félix aussi, c'est un de ses. Tony Nadal, je ne sais pas comment il va se sentir aujourd'hui quoi, que son petit poulet bat son neveu. Oui, c'est un peu, c'est le sport, hein, ouais. Bon, il sait que Nadal va vers la retraite, donc il est obligé de se pencher beaucoup plus du côté de Félix qui a 22 ans. Il doit être avec lui encore pour les 5 prochaines années ou bien les 10 prochaines années avant qu'il n'arrête. Non, Tony, il est bon. Hein. C'est lui-même qui allait donner cette accession figurante de Nadal. Bon, Nadal est arrivé à ce niveau, c'est grâce à Tony. Il faut pas se voiler la face. Donc, il est en train de faire monter le jeune Félix Auger-Aliassime, que j'appelle FAA. Ah, 6-3-6-4. Donc, il était au bord du. Je sais pas, quand tu perds deux matchs, tu es complètement. Ouais. Exceptionnel au service, le jeune Félix Auger-Aliassime, pardon, a nettement dominé Nadal, encore trop juste. Voilà, deux revers et aucun set gagné au compteur, quasiment éliminé. Ça, c'est, quand j'ai vu le résumé du match, là, j'ai dit, mais Nadal dit que c'est fini, je m'en vais, j'arrête. Faut partir la tête haute, à un moment donné. Qu'est-ce que tu n'as pas gagné? Des trophées. Là. Dans ton salon, il n'y a même plus de place pour les trophées. Voilà. Donc, là, vraiment, bah, de nouveau, battu à 2-7 cette fois-ci, Félix. En 1h56, l'Espagnol doit d'abord compter sur une victoire de Taylor Fritcombe contre Gasper Hoon pour ne pas être éliminé dès aujourd'hui, avant d'espérer un miracle lors de la dernière journée de la phase de poule. Donc, pour sa première participation au tournoi des maîtres, d'ailleurs, Félix, c'est la première fois qu'il participe. Il remporte, lui, un premier match dans la compétition et jouera sa place en demi-finale face à Taylor Fritz. Voilà. Et puis, pour la première fois depuis 2009, Nadal perd ses deux premiers matchs de Masters pour la première fois depuis 2009. C'est ça, il est temps. Oui, chaque chose a son temps dans la vie, chaque personne a son époque dans le sport. Quand le corps ne fait plus avec, on s'écarte, on dit bien, j'ai assez donné, je m'en vais. Voilà, c'est tout. Voilà. Robin Söderling et Nicolai Davydenko, qui avaient été les bourreaux de Nadal, il avait d'ailleurs fini cette édition avec une troisième défaite contre Novak Djokovic. En manque de rythme, et puis en cette fin de saison, le Majorin, il est de Majorque. Hein. Ouais, il a montré du mieux dans le jeu, mais ce n'était pas que pour par intérimité. On n'en a jamais senti l'homme au... C'est 22, et 22 grands titres quand même, il a gagné, il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas s'il a de la place. Bon, il a une grande maison, donc ces 22 trophées là sont accrochés quelque part là-bas. Capable de faire douter durement Roger. Roger était vraiment, il était vraiment à l'aise, quoi. Quand tu vois le résumé, c'est Nadal a craqué au service. Il n'a même pas sombré dans le deuxième set, comme face à Fritz dimanche. Il est passé à côté de deux jeux de service suffisants pour permettre à Poupel ses rencontres en deux sets. Sur le premier à 4-3 contre lui, et puis j'ai vu le résumé du match. J'ai dit, mais c'est pas Nadal, ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nadal que je connais, que j'admire, que j'apprécie beaucoup. Voilà, on ne devait même pas arriver là, quoi. En ce cas-là, je me suis dit non, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Alors, donc, Félix, il continue son petit bout de chemin. Je pense que c'est sa première participation. Il a encore du jus, il est encore jeune, je pense. Mais c'est la nouvelle génération de tennis. Hein. C'est comme les jeunes... Roots qui a battu Félix même à son premier match d'ailleurs, ce Master de Turin, c'est sa première participation aussi, si je ne me trompe pas. J'espère qu'ils vont aller de l'avant. Voilà, on va rester là, dans le tennis. Il y a le bruit qui court déjà. Oui. Open d'Australie 2023, Djokovic Novak, il est toujours dans l'attente d'un visa pour Melbourne. Cette fois-ci, ça, tout le monde veut qu'il soit là. On va lui donner le visa de participation, même s'il n'est pas vacciné. Retenu en début d'année à Melbourne, qui est puis expulsé du territoire australien juste avant le premier grand slam de l'année. Il est non vacciné contre le Covid, espère pouvoir jouer l'Open d'Australie en 2023. C'est bientôt là, 2023. Donc le Serbe a indiqué d'ailleurs que ses avocats étaient en train de discuter avec les autorités australiennes pour obtenir, pour qu'il obtienne un visa. Selon la presse locale, sa demande pourrait être acceptée. Voilà, ça l'a beaucoup pénalisé, le fait qu'il n'a pas pu jouer en Australie, il n'a pas joué aussi à d'autres compétitions à travers le monde. Il n'est plus premier du monde. Voilà, ça c'est, je ne sais même pas quelle position il occupe maintenant, là. Je ne sais même plus, là. Mathieu, tu peux jeter un coup d'œil et puis me laisser savoir. Donc, mais il est là actuellement au Master de Turin. Et il dit, c'est mes avocats négocient avec le gouvernement australien pour qu'il obtienne un visa en vue du prochain Open d'Australie du 16 au 29 janvier. Voilà. Il est combien? 7e? 8e? 7. Voilà. Merci Mathieu. Là, il est 7e maintenant. Voilà. Quand tu manques de compétition en tennis, ça, vraiment, c'est pas. T'as beau t'entraîner. Non, ça peut pas t'aider à aller de l'avant. Ça peut pas t'aider à rester premier mondial. Non, c'est pas possible. Donc, le prochain Open d'Australie, c'est du 16 au 29 janvier. C'est comme ça que ça commence. En Australie, c'est ça que ça commence. Et puis, ça se termine comme ça dans les autres pays, effectivement. Donc, je pense bien que ces avocats vont réussir à convaincre les autorités australiennes pour que Djoko, le grand Djoko, se retrouve là-bas. Cette fois-ci, et passer du temps sur les cours de tennis avec ses collègues et ses amis, ses concurrents. Oui, ils sont tous amis, ils sont tous concurrents en même temps. Ils s'entraînent tous ensemble à Monaco. Ils se retrouvent. Et puis, voilà. Ils sont tous grands maintenant, mais les jeunes gens qui disaient à l'époque On est à Monaco pour les impôts, ils vont plus le dire. Enfin, sinon c'est... on est à Monaco parce que tout le monde est là et que tout le monde s'entraîne là. Même si nous sommes tous des concurrents, nous sommes tous des amis quelque part. C'est ça. Alors, l'année passée, je me rappelle bien de cette Sagan Yoko. Cette année, on lui souhaite une très bonne chance, que tout marche bien pour 2023. Pas l'année passée, je parle de cette année-là parce que j'ai l'impression qu'on est déjà en 2023. Non, il nous reste encore un mois et demi, non, hein, Mathieu? Encore un mois et demi. Alors, on espère que le ministre australien de l'immigration et la Fédération australienne de tennis vont pas commencer à jouer à ce jeu encore, se renvoyer la balle. Non, ce visa qu'il a eu n'est pas valable pour le tournoi. Non, c'est pas possible. Et puis même se faire arrêter jusqu'à ce point, on se dit, alors, voilà, c'est... Et puis surtout que l'Australie n'oblige plus les visiteurs à être vaccinés contre le Covid. Donc, il est complètement... Il n'y a pas de problème à ce qu'il n'y ait pas de visa pour aller participer à ce premier grand chelem de l'année, du 16 au 29 janvier. Je lui souhaite en tout cas, Djoko, allez, bonne chance. Et puis, on sera très content de te revoir sur les différents cours de tennis pour que tu puisses peut-être reprendre ta place mondiale. Mais attention à la nouvelle génération. Les 18, 20, 21, 22 ans... Ils n'ont plus froid aux yeux, ils sont très insolents sur le terrain. Pas en comportement, mais la manière de répliquer face aux anciens. J'appelle ça de l'insolence sportive, quoi. Alors ça leur permettra de te mesurer à cette nouvelle génération que tu n'as pas beaucoup rencontrée d'ailleurs. Et quand tu vois Félix Auger-Aliassime qui sort Nadal, tu te dis, le tennis a changé de camp. Les gagnants sont plus les mêmes. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vous reviens avec mon invité Daniel Lantaigne, qui est le président de l'association des professionnels en philanthropie, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de la philanthropie. Voilà. À tout de suite.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Ah oui, c'est la dernière partie de l'émission. Mon invité Daniel Lantaigne, qui est le président de l'association des professionnels en philanthropie, AFP, qui est Association of Fundraising Professionals, la journée nationale de la philanthropie. Il va nous expliquer un peu plus. Les gens qui connaissent le mot, mais ils vont se demander de la philanthropie même, ça sert à quoi? À tout le temps ramasser de l'argent ou bien il y a d'autres facettes qu'on ne connaît pas, il est mieux placé pour nous parler de ça. Bonjour Daniel Lantaigne.
Bonjour.
Merci d'avoir le temps de venir parler en cette journée nationale de la philanthropie où, avec votre emploi du temps chargé, je me suis dit, on aurait dû peut-être le recevoir avant le 15, mais c'est aujourd'hui. Alors comment s'est passée la journée?
Ah ben c'est une journée qui est toujours très attendue à chaque année parce que les gens sont philanthropes 365 jours par année.
C'est ça.
Prendre un temps d'arrêt pour remercier ces gens-là puis vous poser la question en introduction, ben qu'est-ce que la philanthropie qui est philanthrope? Ben je vous dis, on l'est tous un peu, chacun à notre façon, à notre mesure.
Oui.
Si on peut au moins une fois dans l'année prendre le temps de se dire, hey, merci de contribuer à changer le monde. Ben, je pense que c'est le minimum qu'on peut faire. Alors, le 15 novembre, c'est une journée bien particulière que j'affectionne, vous comprenez bien.
Oui. Alors, moi, vraiment, le 15 novembre, effectivement, comme vous le dites, on n'attend pas cette journée-là pour faire un geste. On peut faire les gestes du 1er janvier au 31 décembre.
Ah ben totalement. Puis cette journée-là, ben aujourd'hui, le 15 novembre, journée nationale de la philanthropie, journée nationale, c'est vraiment le temps pour dire ben, à la fois merci aux gens qui donnent de leur temps, qui donnent de leur expertise et qui donnent aussi de leur argent. Et quand on est philanthrope, je disais, à la hauteur de ses moyens, ça peut être de rajouter un 2$ à la facture de la caisse lorsqu'on fait son épicerie, comme ça peut être des grandes annonces de dons dans le cadre de campagnes majeures de financement qu'on voit passer.
Oui.
Chaque personne a à ses propres moyens le pouvoir de changer, de façonner le monde pour que le monde dans lequel on vit soit un peu plus égalitaire, soit avec de meilleures conditions et évidemment soit toujours un peu meilleur. Donc ça, c'est extraordinaire que chacun individuellement, on ait ce pouvoir-là et qu'on se donne aussi ce pouvoir-là de changer les choses. Mm-hmm. Et je pense que de se dire merci, c'est la moindre des choses.
Oh, quelle est la mission première de l'organisme de l'AFP?
Donc, l'Association des professionnels en philanthropie, c'est un regroupement mondial, un peu plus de 27 000 professionnels qui ont décidé de se joindre ensemble, parce qu'on n'a pas un ordre professionnel proprement dit, mais on a le goût de faire le travail comme il faut. Donc, lorsqu'on sollicite une personne, qu'on approche un donateur potentiel, comment on peut le faire de façon éthique? Comment on peut aussi sécuriser le donateur, puis dire, bien, l'argent que vous nous donnez, on va l'utiliser non seulement efficacement pour les fins pour lesquelles vous nous demandez, mais on va le faire dans les bonnes règles de l'art. Alors, on s'est donné un code d'éthique, on s'est donné des règles du jeu, on continue de se former année après année pour être évidemment toujours à l'affût des meilleures pratiques en termes de sollicitation et de philanthropie. Et ce regroupement-là, bien, qui rejoint un peu plus de 330 membres au Québec, bien, je suis très, très fier de le porter comme président, mais je suis très fier d'en faire partie. C'est une grande famille de gens qui se dévouent pour professionnaliser notre travail, mais aussi pour bien le faire et évidemment établir un lien de confiance tellement privilégié, tellement crucial entre le donateur et l'organisme, que ce soit les fonds.
330 membres au Québec.
Oui, exactement. Donc, évidemment, il y a plus de gens qui font la collecte de fonds.
Oui.
330 membres dans tous les coins de la province du Québec et sont des gens qui investissent dans leur formation continue, des gens qui investissent dans leur association, leur profession,
oui,
qui vont se former. Et bien évidemment, c'est un gage de très grand gage de confiance de faire affaire avec un professionnel qui est membre de l'Association des professionnels en philanthropie.
Ouais. Et c'est le Journée nationale de la philanthropie qui date de 1986. Hein? Oui.
Exactement. Mm-hmm. Exactement. On était là au Canada très, très tôt à nommer cette date-là. Donc, on ne l'a pas juste inventée. Elle ne nous appartient pas. Elle appartient à tous les Canadiennes, tous les Canadiens.
Oui.
La Journée nationale, on la célèbre d'un bout à l'autre du pays. Mm-hmm. On l'a célébrée aujourd'hui à Montréal. Elle a été célébrée ailleurs aussi au Québec. Et tant mieux, je pense que ça fait vibrer notre secteur.
Mm-hmm.
Et ça démontre que la philanthropie, c'est pas accessoire en la philanthropie, c'est pas juste de donner de l'argent pour se donner une bonne conscience. C'est un peu le département des miracles qui prend les sommes recueillies et qui transfère ça en impact et en impact à toutes sortes de niveaux sur les communautés et nos sociétés. Alors ça, c'est assez extraordinaire de voir comment le don de chacun peut se convertir là, en changement sociétal.
Mmh. Ouais. Je suis allé sur votre site là pour voir un peu. Qu'est-ce que vous faites, effectivement, en gros? Ta vision, quand j'ai vu favoriser la générosité des changements sociaux positifs dans le monde grâce à des pratiques exemplaires en matière de collecte de fonds. Mais c'est beau, ça.
C'est très beau. C'est très concret aussi parce que on aurait pu se donner une mission, là, 10 000 pieds dans les airs, mais on a vraiment voulu faire en sorte que la profession, qu'on s'improvise pas en collecte de fonds, qu'on travaille pas n'importe comment dans les organisations.
Mmh.
Les donateurs ont maintenant ce qu'on appelle la charte des droits du donateur, donc ils savent très bien ce qu'on va faire avec leur argent, et on le fait de façon très transparente. On est un secteur qui bénéficie avec grand bonheur d'une grande confiance du public, mais cette confiance-là, on sait évidemment qu'elle n'est jamais acquise. Donc, si on veut être sûr de maintenir ce niveau de lien-là de confiance, il faut travailler en ce sens-là, puis c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, c'est le temps de remercier notamment à la fois des bénévoles, des sollicitaires, des gens qui façonnent l'ensemble de cet écosystème-là de philanthropique. Et c'est ce qu'on a fait. On a rendu bien des gens heureux là, aujourd'hui.
Daniel, quels sont vos rapports, vous, en tant que président de l'AFP Québec, avec les autres présidents de l'AFP en dehors du Québec, du reste du Canada?
Oui, bon, on est à peu près là, 230 sections dans le monde, 240, là, si je ne me trompe pas.
Oui.
Notre objectif, bien évidemment, c'est de prendre soin de nos membres. À la base, une association, c'est ce à quoi ça sert. Mais c'est évidemment de s'inspirer parce que la philanthropie au Québec n'est pas la même qu'ailleurs dans le monde,
n'est
pas la même, même des fois au sein même du même pays.
Oui.
Donc, de s'assurer de comment on peut mieux faire, c'est quoi les meilleures façons de solliciter, comment on peut évidemment maximiser notre impact. Toujours, on cherche toujours à faire le plus de millage avec le dollar qu'on soit dans nos organisations.
Oui.
Fait que notre travail, on le valide aussi auprès de nos gens. Je reviens d'un congrès à Toronto, on avait un congrès international il n'y a pas très longtemps, et ça nous réconforte aussi de savoir que on fait bien notre travail, on peut toujours mieux le faire, et il faut s'inspirer aussi de gens qui font ça et pour lesquels c'est une carrière, la collecte de fonds, et c'est ce qui profite davantage à nos membres.
Oui, oui. Et quand j'ai vu le nombre de membres à travers le monde, c'est 31 000 membres, mais c'est beaucoup quand même, hein? Mondialement, 3 500 au Canada et 300 au Québec, dans la section de Québec. Je me dis, mais quelles sont les formalités, les prérequis pour devenir membre?
Il faut évidemment travailler dans un organisme de bienfaisance enregistré où il y a de la collecte de fonds à travers l'organisation. Donc, on peut penser à une fondation hospitalière, mais ça peut être aussi un organisme communautaire.
Oui.
Donc, toute personne qui fait de la collecte de fonds, donc qui va rencontrer des donateurs pour lesquels généralement on émet un reçu d'impôt, toutes ces personnes-là sont éligibles à être membres de l'association. Et ça vient vraiment, je vous dirais, comme je parlais, tant de crédibilité, éthique, formation continue, ça vient vraiment renforcer notre profession. C'est des gens qui souhaitent bien faire leur travail et qui le font au quotidien.
Oui.
Donc, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas une formation obligatoire en collecte de fonds, mais il y a beaucoup de congrès, il y a beaucoup de formations continues, beaucoup de webinaires. On avait un certificat en gestion philanthropique à Montréal. Il existe une maîtrise en Ontario. Donc, il y a différentes façons de se former, de s'outiller pour bien faire ce qu'on a à faire. Puis l'association, bien, je dirais, elle vient sécuriser tout ça, puis elle vient bonifier aussi l'offre de formation.
Mmh. Oui, oui. Et puis, je suis très content pour vous parce que cette année, la journée a été célébrée. La célébration de la journée, ça a été en présentiel, pas comme les deux dernières années où ça s'est passé un peu à cause du, moi, je l'appelle le maudit virus.
Oui. ça a fait du bien. Les gens étaient heureux. Évidemment, les gens sont toujours heureux de se revoir. On était à peu près de 450 personnes réunies aujourd'hui là, à Montréal. C'est du jamais vu, là, même dans les années pré-pandémiques. Là. Mm-hmm. Vraiment, les gens avaient le goût de se voir, avaient le goût de célébrer. Mm-hmm. La philanthropie, la collecte de fonds, c'est sûr qu'on a eu des années difficiles. Là. Les gens qui donnent, c'est des gens comme vous et moi qui ont fait ce qu'ils ont pu pendant la pandémie. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui leur revenu était moins certain. Fait que pour les organisations qui ont vu aussi les besoins augmenter, de plus en plus de gens ont besoin de ressources.
Oui.
Alors, donc, ils ont dû faire des miracles dans les dernières années. Fait que ça, c'est extraordinaire d'avoir réuni aussi tous ces gens-là là, qui contribuent au quotidien.
Mmh. On va parler des remises de prix, parce que j'ai vu, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, les chanceux! » Oui.
Ouais.
On commence par le prix jeunesse engagé par excellence en philanthropie, ex aequo même en plus, hein, ça dit deux jeunes gens. Justin Roy et Leila Yadiakili, sorry, de McGill.
Effectivement, on a eu de très belles candidatures du côté jeunesse. Ces deux jeunes qui sont extrêmement impliqués, là, pour Justin, qui est impliqué avec Opération Enfant Soleil
oui.
depuis, bon, évidemment, son diagnostic.
Il a tout un parcours, hein, Daniel. Comment dirais-je, Justin Roy?
C'est impressionnant
oui.
de voir, puis souvent on a des jeunes qui ont passé par la maladie, qui ont décidé oui. de redonner soit Opération Enfant Soleil, soit à l'hôpital ou à leur communauté. Et c'est fantastique parce que ces jeunes-là, ben, déjà, ils luttent contre la maladie,
oui.
mais en plus, pour eux, c'est comme si c'était passé, ils veulent en faire davantage pour aider la cause de la santé. Moi, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, des jeunes comme ça, là, je pense que Justin a 17 ans. Leila est pas beaucoup plus vieille, puis elle est tout aussi impressionnante là, du côté de McGill, puis elle arrivait du MIT où elle est rendue étudiante.
Oui.
Des jeunes qui s'impliquent vraiment beaucoup dans leur communauté, si jeunes. Son père, qui est venu pour l'événement du Burkina Faso, là, qui a fait un vol pour venir la rejoindre aujourd'hui pour la remise de son prix.
Ah bon?
Oui. C'est
wow!
Vraiment, c'est vraiment des beaux moments. Là,
impressionnant.
Qui façonne toute une nouvelle génération aussi de philanthropes là, qui commencent, eux, déjà très tôt à se donner le moyen de leurs ambitions pour soutenir et aider leur communauté. Alors, c'est extrêmement inspirant de voir ces jeunes-là déjà s'impliquer. Là.
Oui, mais surtout, le cas de Justin, quand j'ai lu un peu ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu, qui lui a permis d'arriver là où il est aujourd'hui, j'ai dit « Wow! »
Ah, tout à fait.
Ça m'a complètement... Je me dis, j'aimerais bien le rencontrer, ce jeune homme-là.
Ben effectivement, il y a vraiment un très très grand sens clairement de la résilience et de la détermination avec son annonce du cancer qui date quand même il n'y a pas si longtemps, quoi, de 2 ans et demi.
Oui.
Avec un projet de poulailler mobile, autosuffisant. Vraiment, ça avait l'air sorti de nulle part, mais c'est un projet très atterri, très achevé pour finalement que ça bénéficie à l'ensemble d'une communauté. C'est vraiment vraiment inspirant là, de voir ces jeunes-là aller.
Oui. Et bravo, merci à vous qui êtes derrière tout ça, vous en tant que président, vous et toute l'équipe de l'organisme. Maintenant, on va parler un peu de prix. Entreprise citoyenne par excellence, moins de 500 employés. Flore Déco qui a été soumise d'ailleurs, son candidature a été soumise par Opération Enfant Soleil de Justin Roy, qui est l'ambassadeur.
Tout à fait. Flore Déco est un citoyen corporatif qui s'est impliqué très tôt
oui.
avec l'ensemble de ses différentes succursales
oui.
et de leurs équipes. Donc, ça a permis de mobiliser l'ensemble des employés, de soutenir une cause à la hauteur du Québec, parce que quand on a des bureaux un peu partout, on cherche toujours une cause, et eux ont trouvé leur cause, qui évidemment est Opération Enfant Soleil, et tout le monde s'est mobilisé très rapidement pour soutenir. Ils ont permis de faire vivre à des familles l'événement Illumi, donc ils ont permis de mettre du bonheur dans la vie de ces enfants-là qui sont malheureusement confrontés, évidemment, toujours trop tôt à la maladie.
Et puis il y a l'entreprise, Prix Entreprise Citoyen par excellence, 1600 employés plus, 500 employés plus, IGA Sobé. Voilà, ça c'est aussi, on leur dit bravo, hein, ils ont gagné leur prix d'information. Mais c'est quand on leur remet ces gens-là, quand on leur remet les prix comme ça, ils se disent waouh, que ça fait du bien de participer à ce genre de choses et puis de savoir tendre la main aux autres quand ils sont dans le besoin.
Ben, tout à fait, parce que ces entreprises-là, oui, ils veulent évidemment être des bons citoyens corporatifs, mais ils pourraient se limiter à avoir un impact minime, mais quand on voit qu'IGA a recueilli plus de 10 millions de dollars pour soutenir la Fondation Charles Bruno, notamment, et à travers différents éléments de la Fondation Charles Bruno, ils ont quand même une panoplie d'événements. C'est impressionnant de voir l'ensemble des épiciers indépendants qui sont regroupés ensemble pour avoir cet impact-là. Moi, je trouve ça extrêmement inspirant. Puis, bon, ben, tant mieux si ça réussit à avoir des impacts sur ces jeunes-là, qui, malheureusement, encore une fois, comme je disais tantôt, sont confrontés trop tôt à la maladie.
Oui. Aujourd'hui, là, celui qui nous écoute ou celle qui nous écoute qui dit, mais OK, c'est très intéressant ce que cet organisme fait, l'AFP Québec, dont vous êtes le président, j'aimerais faire un petit geste. Il n'a qu'à aller simplement sur votre site pour faire le don?
Ben, nous, on n'est pas un organisme collecte des dons. Nous, on est vraiment là pour faire la promotion de la philanthropie. Donc, on va plutôt inviter les gens à aller soutenir les causes qui leur parlent.
Oui.
Donc, nous, on ne cherche pas à avoir de dons. Si c'est vu et voit, par exemple, la cause qui leur parle et qu'ils souhaitent faire un don, ben, qu'ils le fassent. S'il y a une autre cause qui résonne, qu'ils le fassent. Nous, on est vraiment là pour, comme je vous dirais, là, assurer une courroie de transmission entre tout ça, que les donateurs sachent qu'ils peuvent bien faire un don, que les organismes soient soutenus par des gens expérimentés qui vont faire la collecte de fonds. Fait que nous, on est un peu un petit chef d'orchestre à travers tout ça.
Oh, ouais,
vraiment,
okay.
On contribue à éveiller la culture philanthropique en chacun de nous, disons.
Et comme vous le dites si bien d'ailleurs, les répercussions liées à la récession, l'inflation, la pandémie sont nombreuses, persistantes et puis insidieuses, et qu'on pourrait le croire. Et tout couvre d'ailleurs notamment une porte du secteur de philanthropie, c'est lorsque les besoins affluent, la philanthropie est régulièrement appelée en renfort. C'est beau ça aussi. Hein?
C'est beau, mais ça met beaucoup de pression sur les organisations qui des fois essaient de faire des miracles avec pas beaucoup de ressources,
oui.
Avec la pénurie de la main-d'œuvre évidemment qui frappe aussi notre secteur avec les ressources et les besoins. Et bien, les besoins qui augmentent, les ressources qui augmentent pas nécessairement. Donc évidemment, la philanthropie est toujours appelée en renfort. La philanthropie, ce sont des gens à les solliciter, à les présenter des projets de société. Et on espère évidemment qu'ils embarquent toujours et on est quand même très très chanceux là, au Québec, d'avoir une communauté philanthropique aussi généreuse et aussi mobilisée.
Vous, personnellement, Daniel, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu?
Ben moi, c'est vraiment une histoire extrêmement personnelle. À l'âge de 4 ans, j'ai eu un accident qui m'a fait perdre une partie de ma jambe. J'ai été très tôt inscrit dans une organisation qui s'appelle les Amputés de guerre du Canada. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, ben je me suis impliqué dans cette organisation-là. Et j'ai su très tôt que je voulais m'impliquer soit dans cette cause-là ou dans une autre cause, mais
oui.
Il y a quelque chose, ça a semé quelque chose et ben ultimement, ça s'est transformé. Et oui, j'ai travaillé pour cette organisation-là, puis maintenant, ben je suis en mesure d'en aider davantage. Donc, c'est comme ça. Mais donc, on a tous chacun notre déclencheur parce que c'est pas nécessairement sur un cursus traditionnel éducatif. Là, quelqu'un qui veut faire son droit, il sait c'est quoi les étapes à l'école pour s'en aller jusqu'au barreau.
Oui.
Quelqu'un qui veut être en philanthropie, il n'y a pas un parcours très nécessairement très clair. Donc, on a tous un peu un bagage atypique qui nous amène en philanthropie et ça fait la richesse de notre secteur aussi.
Oui, là. Chacun son vécu.
Et voilà.
C'est ce qui nous rend d'ailleurs chacun de nous unique sur cette terre.
Tout à fait.
Merci beaucoup à vous, Daniel Lantaigne, et tous ceux qui travaillent avec vous, autour de vous, pour ce travail. Et puis bon, encore, la journée n'est pas encore terminée, il ne fait pas encore nuit.
Voilà.
Encore une belle fin de journée nationale de la philanthropie. Et comme vous l'avez si bien dit en début de notre conversation, ce n'est pas aujourd'hui. Il ne faut pas attendre seulement le 15 novembre pour faire le geste ou bien pour tendre la main aux autres. La philanthropie, c'est 365 jours de l'année.
Tout à fait.
Merci beaucoup à vous, Daniel Lantaigne,
grand
président de l'Association des professionnels en philanthropie AFP. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Merci à vous aussi. Vous avez bien entendu le directeur général, le président de l'association des professionnels en philanthropie, philanthropie AFP Québec, voilà, parce que c'est un organisme mondial, hein, ils sont dans tous les pays du monde. Et comme j'ai fait le tour un peu avec Daniel Lantaigne, c'est la Journée nationale de la philanthropie. Bon, ben n'attendez pas seulement le 15 novembre de chaque année pour faire un petit geste. Pour, voilà, c'est des 365 jours à l'année. Le geste, on peut le faire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. C'est comme ça le petit geste. La solidarité, ça manque pas. Surtout avec l'inflation, même des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, sont obligés d'aller aux chaînes alimentaires, là, pour chercher de l'argent, ou quoi, pas de l'argent, mais de la nourriture, de quoi manger pour pouvoir se nourrir. C'est pas évident, hein, parce qu'on n'a pas de l'argent qui, un salaire convenable qui nous permet de vraiment d'aller de l'avant. Alors, je vais terminer avec un autre sujet sportif, le Grand Prix de Sao Paulo au Brésil, qui s'est passé le dimanche avec le jeune anglais George Russell, qui vient d'avoir son premier titre. Voilà, tout gamin, celui qui admirait Lewis Hamilton depuis son enfance, qui est devenu maintenant son coéquipier. Il a été le gagnant de cette course au Brésil à Sao Paulo. Il la tient enfin en s'imposant à Interlagos. C'est un coureur c'est un des éléments de Mercedes. Hein. N'allez pas dire que c'est Red Bull, son concurrent, le concurrent à abattre. Il est devenu le 113e vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. C'est sa première victoire, toute première victoire. Il fallait pas le voir. Il était tout en émotion. Il était très ému, ce garçon. Ah, il le mérite. Hein. Ah, il le mérite. Faut le dire, il était temps. D'ailleurs, au cours d'un premier exercice très compliqué avec l'écurie de l'étoile, Lewis Hamilton et la Mercedes, son dauphin au Brésil, l'a chaudement félicité. Pourquoi pas? Et Hamilton a terminé deuxième juste après lui. Cette fois-ci, c'est pas Red Bull et Ferrari qui se sont amassés tout le podium là, voilà. Mais il y avait quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, s'il n'a pas fredonné God Save the King et ses paroles actualisées après la disparition de la reine Elisabeth II, George Russell Mercedes, c'est un élément de Mercedes perché sur la plus haute marche du podium avec les yeux en biais mouillés. Il pleurait de joie, il n'en revenait pas, il n'arrêtait pas de remercier sa famille, ses amis, son équipe, tous ceux qui l'entourent, qui lui ont permis dimanche d'être sur le podium, quoi, pour une toute première victoire. Il est devenu le 113e vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Voilà, il faut le faire. Hein. C'était symbolique. Hein. La symbolique était double puisque 63, son numéro en s'imposant au Brésil lors de l'avant-dernière épreuve de la saison, a offert à l'écurie, à l'étoile, son premier succès en 2022. Ça, il faut le faire. Hein. Hein. Il a 22 ans maintenant, 24 ans, si je ne me trompe pas, ce garçon. 24 ans. Premier succès en F1. 113e vainqueur d'un Grand Prix. C'est des dates qui ne s'oublient pas du tout, hein, ça il faut le dire. Voilà, bravo à George Russell. Et Mercedes avait donné d'ailleurs la permission à ses pilotes de se battre respectueusement. C'est une marque de confiance pour une récompense au drapeau. À damier d'ailleurs, les flèches d'argent ont célébré leur premier doublé depuis le Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola en 2020. Ça, c'est clair, il est deux. C'est rare qu'il se retrouve comme ça en premier, deuxième, ou bien deuxième, premier. C'est bon. Red Bull avec ses voitures plus rapides que Mercedes cette année. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, disons, avec les technologies qui ont permis à Hamilton d'avoir au moins 7 titres, et cette fois-ci, ça n'a pas été le cas, ils se sont retrouvés dans une situation. Donc, c'est un cadeau d'abord en poids, mais est-ce que vraiment l'année prochaine, ils vont être en mesure de garder cette technologie qu'ils ont pu retrouver à la fin de... Parce que le championnat, il prend fin hein, le dimanche prochain à Abu Dhabi. Hein, si vous vous rappelez bien le scandale de l'année passée. Oui. Ah bon, Mathieu, tu te rappelles pas? C'est-à-dire que c'est Hamilton qui gagnait jusqu'à vers la fin de la course. Et voilà. Et puis, bon, ben, il y a eu la voiture jaune, le yellow car, comme on dit. Alors, actuellement, et cet Australien qui était le directeur de la course, il a été renvoyé pour ça, d'ailleurs. Merci à toi, Mathieu. On se retrouve demain. Alors, j'avais raison de le signaler en début d'émission. Hein?
Ben, on verra, ça dépendra de la neige. D'accord. Peut-être que mon vélo n'avancera pas. D'accord. Je sais pas. Mais oui, je sais.
Oh,
là,
Mathieu, tu vas venir. Je sais que tu as des pneus d'hiver sur ton vélo. Merci à toi. Et merci à Myriam Larache et merci à Daniel Lanteigne pour la Journée nationale de la philanthropie, la présidente du AFP Québec. Et merci à nos fidèles auditeurs. Et merci à Catherine Bouduron, la recherche de l'émission. On se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Oui, prenez soin de vos minutes. Et sur ce, je vous dis... Oui. Et, non. Merci Mathieu de me signaler ça. La pièce qu'on va écouter, c'est David Benoît. Knit with a twist. Ah, ça se danse très bien. Allez, mettez-vous un peu sur la piste. Ciao.